J'ai échangé quelques courriers avec M. Matsuzawa, qui est donc professeur à l'université de Nagoya, à Nagoya, comme on dit là-bas, et qui est bien sûr le plus grand spécialiste japonais contemporain vivant de Flaubert. Et il m'a dit que lui aussi utilisait régulièrement cette édition sur Internet de Intratexte, parce qu'elle est très pratique à utiliser, qu'elle fournit rapidement l'accès au texte, et ensuite, eh bien, chaque lecteur doit feuilleter un petit peu à la recherche de l'emplacement dans le texte. Et finalement, c'est ce rassemblement d'informations de pages dans le livre qui prend le plus de temps. Donc ici, j'avais rassemblé ces 67 occurrences de mots, principalement de la famille de rêver, de rêve et de rêver, avec différentes formes du verbe et du mot aussi. Et puis à la fin, vous avez songe, cauchemar, halluciner, hallucination, c'est un petit peu le champ lexical autour du rêve. Et donc ça prend pas mal de temps. Et puis, pour chaque occurrence, j'ai précisé quel était le sens du mot « rêve » qui était utilisé. En effet, comme je vous l'ai mis ici en première ligne, là, j'ai différencié trois sens principaux, disons, du mot « rêve ». Tout d'abord, son sens premier, c'est-à-dire l'activité onirique durant le sommeil, et bon, nous rêvons tous, ou nous croyons rêver ou ne pas rêver, bon, mais c'est une activité naturelle du corps. Le deuxième sens que l'on peut appeler le rêve éveillé, c'est une sorte de relâchement de l'attention pendant quelques moments de repos, de fatigue ou de voyage ou dans ce genre, et pendant ce moment de relâchement, des idées se forment d'une façon un peu mélangée, qu'on appelle généralement rêverie. Rêverie, et on utilise parfois le mot rêve ou le mot songe aussi. Et bien sûr, on utilise l'expression rêve éveillé. Hein, je rêve éveillé. Alors, des visions apparaissent alors, mais ce ne sont pas des choses qui sont orientées, contrôlées par l'esprit. Et puis, le troisième sens, que j'appelle donc le rêve imaginaire ou rêve fictif, c'est un emploi, bien sûr, métaphorique du mot rêve, où une personne dirige volontairement sa pensée dans un certain objectif, disons, par exemple en se projetant dans le futur, en imaginant une possibilité d'avenir ou toutes sortes de choses en pensant de cette façon orientée. Alors de cette façon, bien sûr, le rêve n'est plus du tout une activité, disons, aléatoire ou arbitraire du cerveau, mais une activité beaucoup plus de l'intelligence et de l'imagination. Et comme vous pouvez le remarquer donc ici, je vous ai mis d'abord simplement copié la référence de parties et de chapitres en premier. Ensuite, vous avez la page dans notre édition Pocket. Et juste après, il y a ces chiffres romains 1, 2, 3 qui correspondent justement à ces trois définitions du rêve éveillé et du rêve imaginaire. Et en parcourant rapidement la ligne verticalement, la colonne verticalement, vous pouvez voir que le sens numéro 3 domine très largement. Ce qui ne fait que confirmer notre impression, c'est-à-dire que l'ensemble de ce roman de Flaubert est un roman qui porte sur la réalité des personnes, une réalité imaginaire, fictive, à l'intérieur d'un cadre historique réel, et il ne s'agit pas d'un roman sur les rêves, hein, où on aurait des personnages qui parleraient toujours de leurs rêves, de ce qui s'est passé pendant la nuit, ou des choses plus complexes comme on pourra le voir peut-être l'année prochaine avec Volodine, où le rêve devient quelque chose de beaucoup plus dangereux, hein, puisqu'on peut vivre dans des rêves, passer dans les rêves de quelqu'un, enfermer quelqu'un dans ses rêves, et des choses de ce genre, hein, où l'activité onirique devient quelque chose de beaucoup plus dangereux. Donc Flaubert reste très sage, hein, sur cette notion de rêve, et il n'y a pas de déformation des sens habituels du mot. Pas d'invention autour de la notion de rêve de la part de Flaubert. Alors, je vous en citerai tout de même quelques-uns qui sont justement des vrais rêves, c'est-à-dire au sens numéro 1, et qui sont donc très peu nombreux dans le livre, mais particulièrement intéressants, et plusieurs fois se produisent à la fin d'un chapitre, comme pour marquer une sorte de transition ou d'exagération du rêve. Par exemple, le rêve qui se trouve, page 167, donc c'est pour hallucination, je crois. On est tout à la fin du premier chapitre de la deuxième partie. Et c'est le dernier paragraphe de ce chapitre. Donc Frédéric se couche, bien sûr, en rêvant d'amour. Et à peu près au milieu, hein, de ce dernier paragraphe, puis deux grands yeux noirs qui n'étaient pas dans le bal parurent. Et légers comme des papillons, ardents comme des torches, ils allaient, venaient, vibraient, montaient dans la corniche, descendaient jusqu'à sa bouche. Frédéric s'acharnait à reconnaître ses yeux sans y parvenir, mais déjà le rêve l'avait pris. Il lui semblait qu'il était attelé près d'Arnoux, au timon d'un fiacre, et que la maréchale, à califourchon sur lui, l'éventrait avec ses éperons d'or. Donc voilà un rêve un peu spécial, qu'on peut appeler rêve érotique, hein, bien sûr, mais dans lequel le personnage de Frédéric joue un rôle tout à fait passif et en quelque sorte se laisse dominer et même en rêve éventré avec les éperons d'or de la maréchale. Donc c'est un rêve de domination qu'on pourrait dire masochiste. Également à la page 219, un autre sens du mot rêve, ici, en haut de la page, tout à fait en haut de la page. Par la force de ses rêves, il l'avait posé en dehors des conditions humaines. Il se sentait à côté d'elle, moins important sur la terre que les brindilles de soie s'échappant de ses ciseaux. Alors ici, la force des rêves, c'est une expression très forte, assez poétique. La force des rêves indique bien une relation, cette fois, entre le sens numéro 1 et le sens numéro 3, hein, c'est-à-dire des rêves comme des rêves nocturnes qu'il peut faire et qui peuvent être des rêves érotiques avec Madame Arnoux, se transforment en une volonté qui devient une force qui est soit celle de la volonté, soit celle de la fatalité. Et par cette force, il pose Madame Arnoux en dehors des conditions humaines. C'est vraiment une situation d'idéalisation tout à fait romantique de la femme. Alors nous verrons un peu plus tard aujourd'hui avec l'étude des fins de relations avec les quatre femmes considérées dans le livre. Et nous pourrons conclure finalement que Frédéric a quand même une certaine honnêteté intellectuelle et morale. Nous voyons sur la fin qu'il devient un peu pervers, il devient un peu vicieux, il vit avec l'une et avec l'autre, mais finalement ça ne lui convient pas tellement, et lorsqu'il réussit ou lorsqu'il est obligé de finir avec l'une ou avec l'autre, et cet étonnant chapitre qui commence par « il voyagea, il connut, etc. » qui est un détachement total de toute cette situation. Et lorsqu'il revoit plus tard Madame Arnoux, on comprend bien qu'il a retrouvé une certaine sérénité morale qui correspond à son caractère, à son tempérament. Et finalement, cette situation d'amour platonique qu'il avait idéalisé avec Madame Arnoux est peut-être ce qui lui correspond le mieux. Bon, ce qui ne l'a pas empêché de connaître toutes sortes d'amours avec ces femmes-ci, et puis d'autres, on dit, il connut d'autres femmes, il eut d'autres amours, etc. Troisième rêve, occurrence dont je voulais vous parler, à la page 245, cette fois il s'agit de discussion avec Madame Arnoux, vers le bas de la page 245. Madame Arnoux lui demande « Par quel bon hasard êtes-vous venu ?» Il ne sut que répondre, et après un petit ricanement qui lui donna le temps de réfléchir, donc il réfléchit pour dire quelque chose, « Si je vous le disais, me croiriez-vous ? Pourquoi pas ?» Frédéric conta qu'il avait eu, l'autre nuit, un songe affreux. Donc il a réfléchi à l'avance, ce qui veut dire que c'est un rêve qu'il a imaginé. Il imagine avoir rêvé et il veut se servir de ce mensonge. De la même façon, on avait vu l'utilisation du hasard. « Oh, je passais par hasard okay. !» Bien sûr, un mensonge. Donc ici, autre mensonge, « Oh, ben, j'ai rêvé de vous, etc. » Un songe affreux, « J'ai rêvé que vous étiez gravement malade, prêt de mourir. »« Oh, ni moi ni mon mari ne sommes jamais malades. » « Je n'ai rêvé que de vous, » dit-il. Elle le regarda d'un air calme. « Les rêves ne se réalisent pas toujours. » Frédéric balbutia, chercha ses mots et se lança, etc. Alors cette phrase de Madame Arnoux est extrêmement intéressante. « Les rêves ne se réalisent pas toujours. » C'est une banalité, dans un sens, bien sûr. On pourrait même dire que peu de rêves se réalisent. Ça serait plus juste. Mais les rêves ne se réalisent pas toujours. On voit bien le mélange des sens du mot rêve entre le sens 1, le rêve que l'on fait pendant la nuit, et le sens 3, celui de volonté, de projection dans sa propre vie. Bien sûr, cela non plus ne se réalise pas toujours, hélas, avec elle, bien sûr. Enfin, pour finir peut-être avec les rêves, page 346, cette fois, et peut-être l'unique fois dans ce livre, il est question de rêves d'une autre personne que Frédéric. Et c'est Madame Arnoux qui a rêvé, bien sûr, au sujet de la maladie de son enfant. Elle avait rêvé, la nuit précédente, qu'elle était sur le trottoir de la rue Tronchet depuis longtemps. Elle y attendait quelque chose d'indéterminé, de considérable néanmoins, et sans savoir pourquoi, elle avait peur d'être aperçue. Mais un maudit petit chien, acharné contre elle, mordillait le bas de sa robe. Il revenait obstinément et aboyait toujours plus fort. Madame Arnoux se réveilla. L'aboiement du chien continuait. Elle tendit l'oreille. Cela partait de la chambre de son fils. Elle s'y précipita pieds nus. Donc ici, on voit bien que c'est la réalité qui s'introduit dans le rêve. Ce sont des choses que nous connaissons tous, un petit bruit de la réalité qui entre dans notre rêve, mais qui finit par nous réveiller parce que c'est un bruit d'alarme. c'est un bruit d'alerte qui doit venir interrompre le rêve pour intervenir. Et c'est de cette façon que Madame Arnoux se rend compte de la maladie de son fils. Alors, à l'époque de Flaubert, on est encore assez loin de, disons, de l'étude des rêves telle que nous pouvons la connaître à partir de Freud, c'est-à-dire d'une étude beaucoup plus sérieuse de la psychologie des individus, de l'histoire individuelle des traumatismes depuis l'enfance et de tout ce que, à la suite de Freud, nous pouvons connaître et qui n'est toujours pas une possibilité certaine et sérieuse de comprendre les rêves. Nous en sommes toujours incapables. Néanmoins, il y a cette possibilité de comprendre un peu mieux le caractère humain, les traumatismes qui interviennent dans l'activité inconsciente de la nuit. Mais évidemment, Flaubert est avant Freud, et l'intervention d'un petit chien dans le rêve marque bien quand même qu'on s'intéresse à ces choses. Alors on trouverait bien sûr des chercheurs, des spécialistes, des médecins, des psychologues qui sont avant Freud et qui ont permis les études de Freud. Mais bon, je n'entre pas dans ce domaine qui nous emmènerait trop loin et que je ne connais pas moi-même bien. Est-ce que vous avez quelques remarques ou questions à propos de cette étude de l'aventure d'un mot ou de quelques occurrences? Alors, quelquefois, après la référence, j'ai ajouté entre parenthèses « fin ». Ce sont des cas où l'utilisation du mot arrive en fin de chapitre. Bon, je pensais à un moment qu'il y avait peut-être une sorte de procédé chez Flaubert qui lui faisait mettre ou utiliser ce mot vers la fin des chapitres, mais finalement ça n'est pas dominant. Donc toute personne qui souhaite utiliser ses index avec ce texte ou avec d'autres textes doit nécessairement se formuler des hypothèses. C'est-à-dire, on ne peut pas regarder simplement ces choses et puis lire le morceau de texte et il n'y a rien à faire avec ce genre de choses. Simplement, il faut essayer de imaginer un système, une systématicité dans l'utilisation des mots. Penser que l'écrivain est habité par sa langue, par son lexique, par des mots qui l'obsèdent nuit et jour. Hein, quelqu'un comme Flaubert, c'est quelqu'un qui écrit dans sa tête nuit et jour. Quand il n'écrit pas, il écrit des carnets. Quand il n'écrit pas des carnets, il voyage pour se documenter et il s'est documenté beaucoup aussi pour ce livre. Et peut-être plus que nous, il vit avec la langue, il est habité par les sens et les jeux avec les mots. Alors, lorsque nous pouvons utiliser ce genre d'index, que nous parcourons des morceaux de texte les uns après les autres, nous sommes comme quelqu'un qui essaye de faire un puzzle, avec des pièces, sans savoir même si ce puzzle existe. Donc nous avons des pièces, parfois ces pièces ne forment pas de puzzle, ils n'existent pas, mais parfois ils existent. Et jusqu'à ce que nous ayons constitué quelque chose, une image avec ces pièces, nous ne savons pas si cette image existe. Donc nous sommes dans des hypothèses et je crois que c'est une situation intéressante en tant que chercheur. Bon, je ne vais pas trop dans cette direction pour ne pas vous égarer. Alors, des questions, des remarques sur les rêves? Bon, si vous en avez plus tard, on y reviendra. Pour aujourd'hui, donc, comme nous avons abandonné quelques morceaux de texte la semaine dernière et la semaine précédente, je vais faire ce qu'on appelle un commentaire composé, c'est-à-dire non pas une explication de texte en restant sur une partie un extrait du texte, mais en composant des éléments pour rassembler des informations autour d'une thématique, autour d'un sujet. Alors, ce sujet pour aujourd'hui, c'est la fin. Et cette fin, elle se manifeste dans plusieurs chapitres de la troisième partie, disons à partir du quatrième chapitre, avec d'une part la fin des illusions politiques de Frédéric, une dernière tentative de candidature qui va échouer parce qu'il n'aura pas matériellement, il n'aura pas trouvé le temps d'aller dans la circonscription, dans le département où il voulait être élu, enfin être candidat. Donc la fin de ses illusions politiques et, bien entendu, beaucoup plus important dans le volume de texte, la fin des relations avec une, deux, trois, quatre femmes. Alors une, s'il n'y en a qu'une, c'est Madame Arnoux, bien sûr. Cette fin, nous l'avons un peu évoquée la semaine dernière, c'est en même temps le paroxysme. Le paroxysme, c'est le point le plus haut de la relation. Le moment où Frédéric et Madame Arnoux sont le plus près de leur amour, ils sont même dedans, ils se tiennent, ils s'embrassent. Et à ce moment, qui est donc le paroxysme, on entend arriver Rosanette, qui vient évidemment détruire d'un seul coup toute cette construction, toute cette image de bonheur de laquelle il pouvait, à laquelle il pouvait rêver. Alors le paroxysme est d'autant plus, important qu'il est suivi d'une chute. Si vous avez un paroxysme comme ça et puis ensuite quelque chose qui se maintient, on dit c'est très bien, c'est merveilleux, tout le monde souhaiterait ça bien sûr. Mais ce que nous avons ici c'est un... Alors bon, on a des choses comme ça, des aléas, on voit qu'un paroxysme et hop, tout de suite, ça tombe très très violemment. Et alors je ne sais pas ce que vous en pensez... La scène avec Rosanette, on va la reprendre. On pourrait imaginer s'en sortir, c'est-à-dire Frédéric revenant le lendemain en disant « Oui, mais c'était comme ça, j'étais obligé, la situation, etc. Mais c'est vous que j'aime. » Pourquoi il ne le fait pas? Parce que, en plus de ce choc, d'être interrompu par Rosanette, il y a la honte absolue pour Frédéric de montrer, ou plutôt de donner la preuve à Madame Arnoux de sa relation tout à fait intime avec Rosanette, ce qu'on pourrait appeler la familiarité avec Rosanette. Alors la familiarité, c'est le fait d'être comme si on était en famille. Donc on se parle naturellement. Et en effet, ce que l'on voit dans cette scène, c'est que d'un seul coup, Rosanette est arrivée, elle est venue dans une intention particulière, mais au moment de partir, elle demande à Frédéric s'il part avec elle, et elle le tutoie. Alors, pour Madame Arnoux, c'est une preuve indirecte, ou tout à fait directe, de leur intimité. Et pour Frédéric, c'est la honte absolue. S'il était vouvoyé par Rosanette, il pourrait encore essayer de jouer sur ce tableau, si vous voulez, mais le fait d'être tutoyé est extrêmement pénible. Donc ça, c'est page 438. Alors, si vous voulez, on peut commencer par 437, au moment où tout va bien. Alors, Frédéric est arrivé en bas de la page et il commence à discuter. Bon, c'est pas très chaud tout de suite, mais à partir de cette dizaine de lignes, en bas de la page 437, ça commence à aller mieux. Pourquoi ? Eh bien, parce que Madame Arnoux explique pourquoi elle n'était pas venue au rendez-vous le 22 février 1848. C'est parce que son enfant était malade, ce que Frédéric n'avait jamais su, bien sûr. Elle reprit avec une sorte de lamentation dans la voix. « Mais j'avais peur pour mon enfant. » Elle lui conta la maladie du petit Eugène et toutes les angoisses de cette journée. « Merci, merci, je ne doute plus, je vous aime comme toujours. » Ah non, Frédéric comprend, elle est sincère, bien sûr. « Et non, ce n'est pas vrai. Pourquoi ?» Elle le regarda froidement. « Vous oubliez l'autre, celle que vous promenez aux courses, la femme dont vous avez le portrait, votre maîtresse. » « Eh bien, oui, c'est bien. Je ne nie rien, je suis un misérable, écoutez-moi. S'il l'avait eu, c'était par désespoir, comme on se suicide. » Donc il résume son explication. Du reste, il l'avait rendue fort malheureuse pour se venger sur elle de sa propre honte. Donc il affirme une honte d'un côté, hein, pour se valoriser, pour affirmer son amour. Quel supplice, vous ne comprenez pas. Alors, Madame Arnoux est un peu sensible à ce discours et elle le pense sincère. Donc, elle se tourne vers lui et elle a un visage beaucoup plus agréable. Ils fermèrent les yeux, absorbés dans une ivresse qui était comme un bercement doux et infini. Donc ici, vous avez des marques justement de ce paroxysme, hein. Ivresse, bercement, doux, infini, hein, une sorte de suspension dans le temps du bonheur. Ils restèrent à se contempler face à face, l'un près de l'autre. « Est-ce que vous pouviez croire que je ne vous aimais plus ?» Elle répondit d'une voix basse, pleine de caresses. « Non, en dépit de tout, je sentais au fond de mon cœur que cela était impossible et qu'un jour l'obstacle entre nous deux s'évanouirait. » Alors, il y a comme une relation donc secrète, invisible, entre Madame Arnoux et Frédéric, qui, au-delà des apparences, des réalités sociales, Madame Arnoux est mariée, elle a des enfants, elle a une vie bourgeoise et mondaine, Frédéric de son côté, etc. Mais il y a un lien entre eux. Ce lien est affirmé plusieurs fois, et même dans leur dernière entrevue, on y reviendra tout à l'heure, Madame Arnoux dit que, en effet, elle sent quelque chose entre eux, entre leur cœur, qui n'a rien à voir avec la réalité matérielle de leur vie et des événements qui leur arrivent. C'est donc de son côté aussi une affirmation, une reconnaissance de l'amour platonique et de la relation secrète qui les unit au-delà des réalités. En bas de la page, après la discussion, « Mais je suis là, moi, oh oui !» Un semblot de tendresse l'avait soulevé, ses bras s'écartèrent, et ils s'étreignirent debout dans un long baiser. Bon, profitez-en bien, hein, parce qu'il n'y en a qu'un. Il ne faut pas le rater. Suivi d'eux, un craquement se fit sur le parquet. Une femme était près d'eux, Rosanette. Donc on passe de haut en bas, choc pour les deux. Madame Arnoux l'avait reconnue, ses yeux ouverts démesurément l'examinaient, tout plein de surprise et d'indignation. Enfin Rosanette lui dit « Je viens parler à Monsieur Arnoux pour affaires. » Et en effet, elle a des affaires à régler avec Monsieur Arnoux. Et il est très possible qu'elle soit arrivée là par hasard, sans avoir suivi Frédéric. Frédéric l'accuse un peu de l'avoir suivi, mais bon, là encore, c'est le hasard. Cette fois, il n'est pas marqué comme le hasard, mais c'est le méchant hasard. Et alors, juste après, donc il n'est pas là, et se tournant vers Frédéric, « Te voilà ici, toi !»« Te voilà ici, toi !» On a une double marque de tutoiement. Ce tutoiement donné devant elle fit rougir Madame Arnoux comme un soufflet en plein visage. Alors un soufflet, c'est une gifle, hein. Donc comme si elle était battue, ou peut-être comme si elle était ramenée à la réalité. Elle était dans un rêve, Bon, Rosanette arrive, que se passe-t-il? Mais le tutoiement lui montre bien que le rêve d'amour, finalement, n'est qu'une fausse image. Et bien sûr, ça continue. La maréchale qui regardait ça et là dit tranquillement « Rentrons-nous, j'ai un fiacre en bas. » Alors « rentrons-nous », ça veut dire « rentrer chez soi », c'est-à-dire « rentrons-nous chez nous ». Donc, il y a un « chez nous hein, ». Deux personnes qui se tutoient, à la limite, on ne sait pas, pourraient être amies pour diverses raisons, comme nous pouvons l'être avec nos amis. Ça ne veut pas dire qu'on habite ensemble. Mais alors, ajoutant le « rentrons-nous », là, c'est tout à fait définitif. Il faisait semblant de ne pas entendre. Bon, mais évidemment, c'est trop tard, et Madame Arnoux intervient. « Ah oui, c'est une occasion, partez, partez !» Et donc, c'est la fin de cette situation. Alors après ce départ, ils ne se reverront pas avant 1867, c'est-à-dire très longtemps après. Madame Arnoux et Monsieur Arnoux sont installés en Bretagne où ils essayent de rembourser leurs dettes. On comprend que Monsieur Arnoux est devenu très sage, qu'il ne fait plus toutes les bêtises qu'il a faites. Et nous verrons tout à l'heure qu'il a pris beaucoup de coups, c'est-à-dire que toutes les opérations plus ou moins malhonnêtes, mais plutôt malhonnêtes finalement, qu'il a faites avec de l'argent, lui sont retombées dessus l'une après l'autre. Rosanette a récupéré son argent, Mademoiselle Vatnaz a déclenché une procédure aussi, et Madame Tambreuse également y participe. Donc, il y aura ce qu'on pourrait appeler un acharnement contre Arnoux, hein, de gens qui veulent absolument récupérer leur argent après avoir trop longtemps attendu, c'est-à-dire lorsque la confiance est tout à fait perdue. Donc un acharnement, c'est une volonté, si vous voulez, de s'attaquer à une personne au-delà de ce qui est raisonnable. En effet, on peut demander à M. Arnoux de rembourser, on lui a demandé, il l'a promis, mais il ne l'a pas fait. Et donc au bout d'un moment, tous les créanciers sont obligés de comprendre que ça ne sert à rien. Et il faudra attendre la fuite d'Arnoux, et puis la vente du mobilier, et puis ensuite, ils continueront à rembourser leurs dettes. Alors, on peut dire qu'à ce moment-là, c'est-à-dire à la page 439, l'aventure, ou disons l'espoir de Frédéric avec Madame Arnoux, sera tout à fait terminée. En effet, la dernière entrevue entre eux, en 1867, sera une surprise pour Frédéric, puisque c'est Madame Arnoux qui vient lui rendre visite pour, en quelque sorte, voir un vieil ami, confirmer qu'ils s'aimaient vraiment tous les deux, et que, en quelque sorte, cet amour continue, mais comme il a existé, qu'il s'est développé en dehors de la réalité de leur vie à tous les deux, eh bien, il n'y a pas de nécessité de changer quoi que ce soit, et Madame Arnoux repartira. Comme si l'amour entre eux était quelque chose de souterrain, qui n'a rien à voir avec la vie réelle, et qui continue. Et c'est donc une sorte de sagesse que de ne pas dire « Bon, bah maintenant, en 1867, nous pouvons essayer de vivre ensemble, je vais laisser tomber mon mari, etc. Bon. » Et d'ailleurs, il n'y a plus de désir amoureux. Alors, je parlais tout à l'heure de l'espoir, hein, plus d'espoir pour Frédéric après cette page 439, et en 1867, plus de désir non plus. Et c'est un choc pour Frédéric, parce qu'il voit les cheveux blancs de Madame Arnould, et ces cheveux blancs, bien sûr, c'est pas dégoûtant, hein, nous en avons tous ou presque ici, des cheveux blancs, mais ces cheveux blancs affirment la différence entre la personne jeune, désirable de Madame Arnould, qui a toujours été, disons, idéalisée, qui n'a pas été vue comme elle était, peut-être. Hein. Peut-être qu'en 51, elle avait déjà quelques cheveux blancs, mais Frédéric ne les a pas vus du tout. Et donc en 67, c'est la marque comme ceci. Donc, fin de l'espoir, fin du désir, et nous pouvons considérer que cette aventure est terminée. Avec Rosanette, nous avons vu quand l'histoire avec Rosanette a commencé, et pour Frédéric, dès le début, il s'agissait de ce qu'on appelle un pis-aller. Un pis-aller, c'est une solution de deuxième catégorie, une solution de repli, lorsque la solution de choix, la solution principale, n'est pas accessible. Eh bien, on se satisfait de la deuxième possibilité, en attendant que peut-être le choix principal puisse de nouveau être sélectionné, être pris. Donc, un pis-aller. Eh bien, voilà, je ne peux pas avoir Madame Arnould, donc il faut quand même avoir quelques amours, quelques vies amoureuses, érotiques, sexuelles, mondaines et de toutes sortes, hein, avec... Des femmes, donc, bon, pourquoi pas celle-ci. Rosanette était là. Alors, avec Rosanette, ils vont s'installer dans une vie commune, on peut dire, après un paroxysme. Encore une fois, le paroxysme avec Rosanette, c'est-à-dire les meilleurs moments avec Rosanette, sont à Fontainebleau. Lorsque ils se sont... en quelque sorte enfui de Paris. Et qu'il reste à Fontainebleau pendant plusieurs semaines. Et ça correspond pour Flaubert exactement aux semaines de juin, et en particulier à la semaine de juin 1848, qui est la semaine révolutionnaire. Journée d'insurrection de juin 1848. Alors, nous avons beaucoup parlé de février 1848, avec la fin de la royauté et le début de la République. Cette République s'installe, elle essaye de vivre, elle a beaucoup de difficultés. Comme on a vu la semaine dernière, cette République doit faire face à une situation économique difficile et elle crée une possibilité de faire travailler un grand nombre de chômeurs dans ce qui s'appelle donc les ateliers nationaux. Ces ateliers nationaux seront un échec du gouvernement, non pas un échec économique, parce que ça n'a pas duré assez longtemps pour que l'on voit si le modèle pouvait servir. On pouvait penser tout de même que ce serait un échec, parce que les conditions proposées, données par le gouvernement, n'étaient pas suffisantes pour faire réussir ces ateliers. J'ai parlé de Louis Blanc et de son projet extrêmement détaillé d'ateliers sociaux qui, avec les moyens conséquents que le gouvernement aurait pu donner, ces ateliers sociaux auraient peut-être été une bonne solution. On ne sait pas, on ne peut pas faire de politique fiction, évidemment. Mais le peu de moyens donnés par le gouvernement à Louis Blanc fait que le projet finalement retenu d'ateliers nationaux n'est pas du tout viable. Et ces ateliers seront fermés. Ce qui veut dire que toutes les personnes, les ouvriers, les chômeurs, auxquels on a promis du travail, qui se sont battus pour la République en février, se retrouvent être, comme on dit, les dindons de la farce, c'est-à-dire ceux qui sont trompés complètement et abandonnés complètement par le système. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression, être le dindon de la farce. Ça veut dire que plusieurs personnes font une farce, hein, une blague, hein, pour s'amuser. Et au début, on ne sait pas avec qui on va s'amuser, de qui on va se moquer. Et d'un seul coup, on se rend compte que c'est soi-même dont tout le monde est en train de se moquer. C'est précisément être le dindon de la farce. Alors, je crois que c'est ces ouvriers qui sont allés dans la rue, qui se sont battus, qui ont aidé les bourgeois à faire sortir de terre cette république, ont été complètement abandonnés par la suite, les bourgeois n'ayant aucune intention de garantir le travail, d'aider les chômeurs à réellement avoir un statut social décent, et ils les ont donc abandonnés. Alors au mois de juin, il y a des révoltes, et ces révoltes se termineront par des massacres, véritables massacres, où la police et l'armée de la République emprisonnent, tuent et déportent plusieurs dizaines de milliers de personnes. Alors ces journées de juin 1848 sont, pour beaucoup d'historiens, une des hontes de la France en tant que République. À la limite, un roi, un empereur décide quelque chose, ce n'est pas la nation, ce n'est pas le peuple, mais c'est la République qui a décidé de faire ces massacres et c'est elle qui est responsable. Alors beaucoup de ces personnes arrêtées seront déportées et ce sera pour la France le début d'une autre sorte de honte qu'on appelle les bagnes coloniaux. D'abord, ces personnes arrêtées seront mises dans des bateaux fermés, des bateaux-prisons, du côté de la Bretagne. Donc il y a une allusion à un moment au ponton de Belle-Île. Que Flaubert écrit Belle-Île avec un S, vous pouvez écrire aujourd'hui avec un circonflexe et sans S. Belle-Île, qui est donc une île au large de la Bretagne, en France, et les pontons, ce sont des bateaux, des bateaux assez grands, que l'on a transformés en prison, et dans lesquels on garde des prisonniers, de façon à ce qu'ils ne soient pas en contact avec les populations. À Belle-Île et dans quelques autres endroits de la Bretagne, on a donc parqué, stocké, formé des sortes de camps, qui sont parmi les premiers camps de concentration, précisément. Et ces premiers camps ont quand même ému un peu la population bretonne alentour, qui ne comprenait pas très bien ce qui se passait. Et pour éviter que cette population bretonne se solidarise trop avec ces gens malheureux que l'on voyait par les petites fenêtres des bateaux, eh bien, on a décidé, le gouvernement de la République a décidé de créer des bagnes coloniaux. Alors, les bagnes sont donc des sortes de prisons de travail dans les colonies françaises. Donc cette fois, ce ne sont pas des camps de concentration, mais bien des camps de travail qui sont créés dans les pays colonisés par la France et où il y a beaucoup de choses à faire, comme casser des cailloux, etc. Donc les bagnes coloniaux, où là aussi des dizaines de milliers de chômeurs, de socialistes, de révolutionnaires ont été emmenés. Et certains sont revenus après la loi d'amnistie, et d'autres ne sont pas revenus parce qu'ils sont morts, et d'autres sont restés en exil. Donc il y a bien sûr des personnes qui n'ont pas été prises par la police et par l'armée, qui n'ont pas été prisonniers, faits prisonniers, et des personnes qui se sont exilées volontairement après 1848 ou après 1851. Donc je disais l'autre jour, Louis Blanc est parti en 1848 et il n'est revenu qu'après 1870. Victor Hugo, par exemple, est parti en 51, après le coup d'État de Napoléon III, le 2 décembre, on y reviendra tout à l'heure, et il n'est revenu lui aussi qu'en 1870. Donc Louis Blanc est parti plus longtemps que Victor Hugo, ce qu'on ne sait pas, mais enfin, c'est un peu normal, parce que Victor Hugo est plus connu que Louis Blanc. Alors, pendant ces journées donc d'insurrection de juin 1948, Flaubert a le choix, soit il met Frédéric à Paris et il le rend témoin de ce qui se passe, soit il exile Frédéric quelque part où il ne voit absolument rien de tout ce qui s'est passé. Et c'est le choix fait par Flaubert. Flaubert fait donc le choix délibéré, alors qu'il a tout à fait la possibilité de se documenter comme il l'a toujours fait, pour mettre Frédéric dans Paris, mais il fait le choix délibéré de mettre Frédéric à Fontainebleau pendant toutes ces journées de juin. C'est, je crois, une volonté de ne pas parler de ces journées de juin, parce que on ne peut pas en parler de cette façon dans un roman qui reste un roman malgré tout agréable. Ce sont des choses trop horribles pour être mises dans un roman. Bon, il y a beaucoup de commentaires sur cette absence donc de juin 48 dans l'éducation sentimentale. Vous pourrez en retrouver dans différentes études. À ce moment-là, donc, Frédéric se trouve à Fontainebleau avec Rosanette, et c'est le sommet, disons, de leur amour. Ils sont tous les deux dans une vie tout à fait bucolique, c'est-à-dire une vie à la campagne. Une sorte de réalisation, de matérialisation du rêve rousseauiste, hein, de Rousseau, de harmonie avec la nature, de deux êtres qui s'aiment et qui sont en harmonie avec la nature, qui en quelque sorte ne s'occupent plus de la société, de la politique, de la situation humaine en général. C'est en même temps quelque chose d'un peu ridicule. Parce que cette sortie de la société, on voit bien que ça n'est pas quelque chose qui peut continuer toujours. On n'imagine pas que Frédéric et Rosanette restent 5 ans, 10 ans, 20 ans dans une petite maison de campagne. Alors, il y a beaucoup de façons d'interpréter ceci. On pourrait le voir comme, en effet, le rêve à la Rousseau. On peut le voir également comme un clin d'œil à son ami George Sand, qui écrit beaucoup de romans de campagne, hein, qui se passent dans la campagne, et où elle valorise, où elle exalte justement ce type de vie. Et Flaubert a donc fait son petit essai, hein, pendant quelques pages, il essaye de faire vivre des personnages de cette façon. Et, bon, vous pourrez reprendre les pages de Fontainebleau. De mon point de vue, ce sont les pages les plus ennuyeuses du livre. Ils se promènent, ils sont dans des bois, ils regardent des petits oiseaux, ils savent, il ne se passe rien pendant des jours et des jours. Ce qui n'empêche pas que les deux personnages soient heureux. Je ne leur enlève pas du tout leur bonheur. Et peut-être que moi-même, je souhaiterais vivre ce genre de choses de cette façon. Mais en tant qu'épisode d'un roman, c'est une sorte d'épisode négatif, de contraire, de contraste par rapport à tout le reste du roman, qui est un roman de société, qui est un roman de société dans la société, principalement de Paris et un petit peu de province, Paris-province. Après ce paroxysme, ce maximum vécu avec Rosanette, le retour à Paris se fait justement dans la dernière journée d'insurrection, et Frédéric assiste vaguement, enfin, il a quelques problèmes pour se déplacer, parce qu'il n'y a plus de transport disponible. Il trouve tout de même à louer une voiture qui le ramène, et puis bon, en plusieurs étapes, il arrive dans Paris. Et quand il arrive dans Paris, il est arrêté par des gardes, par des militaires, il a beaucoup de mal à progresser pour rejoindre du Sardier. Parce que là encore, il n'est pas parti de Fontainebleau comme ça parce qu'il en avait marre de Rosanette, mais parce qu'il a été informé que Dussardier avait été blessé pendant les combats. Donc c'est pour aller lui porter secours. Je crois qu'il est marqué que c'était aussi un prétexte pour Frédéric qui pouvait comme ça partir. Ce qui veut dire aussi que vivre avec Rosanette comme des oiseaux dans la forêt, ce qu'on dit aussi vivre d'amour et d'eau fraîche, c'est une expression en français, vivre d'amour et d'eau fraîche, c'est-à-dire n'avoir besoin de rien, que de l'amour et de l'eau. Du pain, des graines, vivre d'amour et d'eau fraîche. Dans ce style de vie, avec Rosanette, il n'y a pas de problème, c'est une possibilité. Mais dans la ville, dans la société, avec tout le respect des conventions et les différences entre les catégories sociales, les apparences des gens et toutes sortes de choses, Rosanette, ça n'est pas possible, il faut la cacher. Donc Frédéric va reprendre sa vie parisienne et il va être obligé de cacher sa vie familiale avec Rosanette, d'une part, enfin principalement vis-à-vis de Madame d'Ambreuse. Page 434, regardons un peu dans le détail comment ça se passe. En haut de la page, la dixième ligne à peu près, il était maintenant sa chose, sa propriété, elle en avait sur le visage un rayonnement continu, en même temps qu'elle paraissait plus langoureuse de manière, plus ronde dans ses formes. Et, sans pouvoir dire de quelle façon, il la trouvait changée, cependant. Alors, comme vous le savez peut-être, vous l'avez deviné, à cette rondeur, l'utilisation du mot « ronde », Rosanette est enceinte, et Frédéric ne le voit absolument pas. Il voit qu'il y a un petit changement, mais il ne comprend pas de quelle nature. De la même façon que Frédéric est opposé au mariage, et il l'affirme plusieurs fois avec l'une ou avec l'autre, il est également indifférent au fait d'avoir des enfants. Il essaiera de s'attacher un peu à cet enfant de Rosanette, mais ça ne marche pas beaucoup. Et lorsque cet enfant mourra d'absence de soins, c'est une sorte de on ne peut pas dire copie, sorte de d'écho de l'épisode où Madame Arnoux doit soigner son enfant. L'enfant est malade, il faut le soigner. Et c'est parce que Madame Arnoux y porte tous ses soins à 100%, y compris au détriment de Frédéric, qu'elle peut sauver son enfant. De l'autre côté, l'enfant de Rosanette, il est en nourrice, on ne sait pas où. Lorsqu'il est malade, on le ramène, on ne s'occupe pas très bien de lui. Et donc, cet enfant meurt de ne pas avoir été suffisamment soigné. Bien sûr, les deux enfants n'ont pas le même mal, mais on peut le comprendre comme ça. Et puis à la page 440, page 440, encore en haut de la page, à la quatrième ligne, il n'y eut rien à répondre, et d'un accent plus haineux, mais l'autre jour au Champ de Mars, « Ah, tu nous ennuies avec tes anciennes, misérable !» Il leva le poing. « Ne me tue pas, je suis enceinte. » Frédéric se recula. « Tu mens, mais regarde-moi !» Elle prit un flambeau et montrant son visage. « T'y connais-tu ?» De petites taches jaunes maculaient sa peau, qui était singulièrement bouffie. Frédéric ne nia pas l'évidence. Donc il ne s'en est pas rendu compte avant, et il a attendu, il a fallu qu'il attende qu'elle le lui dise. Mais je crois que déjà, Frédéric est arrivé au moment où il n'a plus de passion, il n'a plus d'amour pour Rosanette non plus. Alors ce point pourrait être comparé avec ce que proposait Stendhal dans son livre De l'amour. Stendhal propose comme idée, disons générale, que lorsqu'une relation amoureuse arrive à sa fin, il y a une sorte de moment particulier qu'il appelle la décristallisation. Alors, l'amour, le moment où l'on tombe amoureux de quelqu'un, c'est une sorte de cristallisation, de fabrication d'un cristal. Alors, on a avant des choses diverses, comme ça, puis un cristal se forme. Ce cristal est solide, il est beau, il est... Voilà, c'est l'amour. Et ce cristal vit, existe, se développe, jusqu'au moment où il arrive à sa fin, il se casse. Et c'est la décristallisation de Stendhal. Donc, alors, pour bien voir cette décristallisation chez Frédéric, je vous propose à la page 442, en haut de la page encore, cette lâcheté et la phrase suivante, « Mais dès lors, toutes les défectuosités de la maréchale lui apparurent. » Vous pouvez noter que Flaubert a préféré le mot « défectuosité » au mot beaucoup plus simple « défaut ». Tous les défauts lui apparurent. Mais Flaubert a choisi un mot justement plus difficile à prononcer pour rendre la prononciation même désagréable, un peu difficile. Mais dès lors, toutes les défectuosités de la maréchale lui apparurent. Elle avait un mauvais goût irrémédiable, une incompréhensible paresse, une ignorance de sauvage, jusqu'à considérer très célèbre le docteur Desrosiers, et elle était fière de le recevoir, lui et son épouse, parce que c'était des gens mariés. Elle régentait d'un air pédantesque, là aussi, au lieu d'utiliser l'adjectif pédant, Flaubert choisit l'adjectif plus long, et un peu ridicule, un peu précieux, pédantesque, à la façon de pédant, comme un pédant. Sur les choses de la vie de Madame Irma, etc. Et bon, la liste continue de ce qui déplaît maintenant clairement à Frédéric. Et cependant, Frédéric continue cette vie commune qui pourrait lui paraître désagréable ou regrettable. Jusqu'à, je ne sais pas, mais page 477. Au milieu de la page, il en découvrit la cause Elle rêvait mariage, elle aussi. Frédéric en fut exaspéré. D'ailleurs, il se rappelait son apparition chez Madame Arnoux, et puis il lui tiendrait rancune pour sa longue résistance. Donc, c'est un peu comme lorsque vous en avez fini avec une personne et vous décidez de lui faire payer d'un seul coup tous les problèmes que vous avez eus avec elle. Hein, donc, il n'aime pas le mariage, il ne lui pardonne pas son apparition chez Madame Arnoux, qu'on a vu tout à l'heure, hein, au moment du paroxysme, et il lui tient encore rancune pour sa longue résistance. En effet, hein, là, il a réussi à coucher avec Rosanette, mais après avoir essayé plusieurs fois, et même s'être fait ridiculiser par Sisi, vous vous en rappelez sans doute. Et deux paragraphes plus bas, page, toujours en bas de la page 477, ses paroles, sa voix, son sourire, tout vint à lui déplaire. Ça c'est typique hein, de la décristallisation. Tout vint à lui déplaire. Ses regards surtout, cet œil de femme éternellement limpide et inepte. Il s'en trouvait tellement excédé quelquefois qu'il l'aurait vu mourir sans émotion. Mais comment se fâcher ? Elle était d'une douceur désespérante. Donc c'est comme s'il cherchait des prétextes hein, pour se disputer, pour rien, mais il n'y arrive pas parce qu'elle est douce et gentille. À la page suivante, page 478, lorsqu'il voit des lauriers, on va revenir à des lauriers après, l'avocat dînait chez eux de temps à autre, et quand il s'élevait de petites contestations, se déclarait toujours pour Rosanette. Si bien qu'une fois, Frédéric lui dit « Hé, couche avec elle si ça t'amuse !» Tant il souhaitait un hasard qu'il l'en débarrassa. Là encore, on peut dire que Frédéric manque de courage. Il pourrait décider lui-même de finir, mais non, il attend qu'un événement lui permette de finir avec Rosanette sans que ce soit lui qui l'ait décidé. Alors tout de même, il profite de cette situation et il le dit lui-même avec perversité. Regardons à la page 453, qui est la fin du chapitre 3, justement les derniers mots du chapitre 3 de la deuxième partie. Alors bien sûr, à cette période, Frédéric alterne ses journées entre chez Rosanette, où il vit en quelque sorte maritalement, religieusement, il utilise même l'adverbe une fois, et chez Madame d'Ambreuse, où il passe les après-midi, en quelque sorte, avec sa maîtresse. Et les derniers mots de ce chapitre, dans un transport de sa tendresse, elle se jura intérieurement de ne plus appartenir à d'autres. C'est Rosanette hein, qui renonce à avoir des amants. Quoi qu'il advint, quand elle devrait crever de misère. Ses jolis yeux humides pétillaient d'une passion tellement puissante que Frédéric l'attira sur ses genoux et il se dit « Quelle canaille je fais !» en s'applaudissant de sa perversité. C'est peut-être pour d'autres hommes le résultat normal de l'éducation, des expériences amoureuses, de la vie en société qui oblige à mentir, à faire quelque chose avec un tel, une telle, etc. et à devenir en quelque sorte pervers, retors, hypocrite, mensonger. Et la société apprend ça à beaucoup de gens. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde, hein, mais dans beaucoup de romans, en particulier du XIXe siècle, chez Balzac par exemple, on voit que la perversité est un résultat de l'éducation. Et que s'il n'y a pas cette perversité, cette canaillerie de la personne, il n'y a pas de réussite sociale. Alors Flaubert le redit d'une autre façon, mais en quelque sorte à contre-pied Parce que Frédéric arrive à ce point de sa vie où il est comme ça, où il se dit qu'il est comme ça, mais j'ai l'impression qu'il s'amuse avec cette idée, et au fond, il n'est pas tout à fait à l'aise avec cette perversité. Il ne la considère pas comme son caractère personnel. Il a l'impression d'être arrivé là comme une sorte de réussite sociale. La perversité comme une réussite sociale et non pas comme son propre caractère. Et lorsque l'occasion s'en présentera, eh bien, il reviendra à une vie plus simple parce que il ne se satisfait pas complètement de celle-ci. Alors, comment peut-il finir avec Rosanette? Eh bien, il va utiliser, on peut dire, un événement, parce que lui-même attendait qu'un événement se produise pour pouvoir la quitter. Et en effet, il va utiliser un événement pour la quitter, et ce sera injuste. Il s'agit de la vente du mobilier des Arnoux. Frédéric pense que c'est à cause de l'action en justice de Rosanette, qui demandait remboursement de ses billets que M. Arnoux lui avait signé. Frédéric pense que c'est à cause de cette action en justice que les Arnoux sont obligés de s'enfuir et que leur mobilier sera vendu aux enchères. Mais ça n'est pas la cause. La cause, c'est l'action de Mademoiselle Vatnaz. Alors, Frédéric accuse Rosanette d'être la cause du départ et de la honte publique des Arnoux. Et Rosanette dit, mais non, mais c'est pas moi. Et quand même, il utilise cet événement pour la quitter. Page 499. 499 et 500. Alors, il s'agit de, en haut de la page 499, hein, de mensonges, de donner sa parole, de qu'est-ce que vaut la parole. Donc là, on est tout à fait dans la fin de la confiance entre les deux. Et Rosanette avoue, voilà, 4, 6, 8, 9, 9 dixième ligne. Frédéric lui rappela ses amants par leur nom. Rosanette, toute pâlissante, se reculait. « Cela t'étonne? Tu me croyais aveugle parce que je fermais les yeux. J'en ai assez aujourd'hui. On ne meurt pas pour les trahisons d'une femme de ton espèce. Quand elles deviennent trop monstrueuses, on s'en écarte. Ce serait se dégrader que de les punir. » Alors c'est assez méchant, hein, vis-à-vis d'elle. Elle se tordait les bras. « Mon Dieu, qu'est-ce donc qui l'a changé? Pas d'autre que toi-même. » Et tout cela pour Madame Arnoux, s'écria Rosanette en pleurant. Il reprit froidement. Je n'ai jamais aimé qu'elle. C'est pas gentil, hein, pour Rosanette. À cette insulte, ses larmes s'arrêtèrent. Ça prouve ton bon goût. Une personne d'un âge mûr, le teint couleur de réglisse, la taille épaisse, des yeux grands comme des soupiraux de cave et vides comme eux. Puisque ça te plaît, va la rejoindre. Bon, c'est la méchanceté naturelle qui revient chez Rosanette pour critiquer violemment l'apparence physique de Madame Arnoux, que nous ne connaissons pas bien. Hein. Il n'y a pas eu de véritable description. Alors bon, l'âge mûr, on sait que Madame Arnoux est plus âgée. Le teint couleur de réglisse, c'est-à-dire la peau qui n'est pas blanche. La peau assez, aujourd'hui on pourrait dire, pâlée ou bronzée ou peut-être même métisse, hein, je ne sais pas comment est Madame Arnoux, mais en tout cas elle n'a pas la peau blanche. À cette époque, on valorise énormément encore la blancheur de la peau. La taille épaisse, c'est une femme qui a eu 3 enfants quand même, hein, Madame Arnoux, donc elle n'a pas la taille mince, hein, il n'y a plus de coulier, hein, Donc, il faut s'habituer à ça. Hein. Et bon, c'est très méchant. Alors, Rosanette demeura immobile, stupéfiée par ses façons extraordinaires. Elle laissa même la porte se refermer. Puis d'un bond, elle le rattrapa dans l'antichambre et l'entourant de ses bras. « Mais tu es fou, c'est absurde, je t'aime !» Elle le suppliait. « Mon Dieu, au nom de notre petit enfant, avoue que c'est toi qui as fait le coup !» dit Frédéric. Alors faire le coup, c'est vraiment une expression de cambrioleur, hein, de bandit, de mafioso. Faire le coup. Faire le coup, ça veut dire casser la banque. Hein, faire le coup. Avoue que c'est toi qui as fait le coup. On se croirait au milieu d'un roman policier, hein, avec l'interrogatoire de police. Elle protesta encore de son innocence. Page 500. Tu ne veux pas avouer ? Non. Eh bien, adieu et pour toujours. Écoute-moi, Frédéric se retourna. Si tu me connaissais mieux, tu saurais que ma décision est irrévocable. Oh, tu me reviendras. Jamais de la vie. Et il fit claquer la porte violemment. Voilà comment on profite de la situation. Avec Madame d'Ambreuse. Alors avec Madame d'Ambreuse, nous voyons bien qu'il s'agit pour Frédéric d'abord d'essayer de remplacer dans son esprit Madame Arnoux, une femme plus âgée, avec une position sociale, comme l'était Madame Arnoux au début, même d'un rang plus élevé, puisqu'on est dans la finance et l'aristocratie, et donc la possibilité de se rapprocher de Madame d'Ambreuse paraît intéressante à Frédéric. Mais ça n'est pas la même situation qu'au début. Ce n'est plus un jeune homme amoureux fou d'une belle femme vue sur un bateau. C'est maintenant un homme calculateur. Calculateur, c'est-à-dire qui essaye de prévoir, d'imaginer comment il va pouvoir profiter de cette situation tout en s'attachant sincèrement à cette femme qui, semble-t-il, est une belle femme et donc il n'y a pas d'impossibilité à mélanger l'amour et l'intérêt. Donc, premier point, Madame d'Ambreuse pourrait remplacer Madame Arnoux dans l'esprit de Frédéric. Et d'ailleurs, il la trouve beaucoup plus agréable en société. Finalement, on n'a pas vu beaucoup Madame Arnoux en société discuter avec des gens comme une femme mondaine, une femme qui tient salon, hein, avoir un salon, tenir un salon, discuter avec des hommes puissants du régime, du gouvernement. Madame d'Ambreuse sait le faire. Et dès le début, chez les d'Ambreuse, on l'a vu de cette façon. Alors, comme je disais l'autre jour, on va avoir une sorte de jeu complexe où Frédéric va être intéressé par Madame d'Ambreuse, Madame d'Ambreuse par Frédéric, et leur rapprochement va être facilité, aidé par Martinon, dont on ne comprend pas, tout d'abord, on ne comprend pas son intérêt. En tout cas, ni Madame d'Ambreuse, ni Frédéric ne comprennent pourquoi Martinon leur propose de se rapprocher. Alors, on saura la vérité un peu plus tard, puisque Martinon a en quelque sorte joué, un peu comme on joue au casino, mais avec une sorte d'intuition. Martinon a eu l'intuition que la jeune Cécile était la fille naturelle de Monsieur d'Ambreuse, et peut-être que des conversations privées, dont Flaubert ne nous donne pas le contenu avec d'Ambreuse, ont permis à Martinon de savoir que Cécile était sa fille, de savoir que Monsieur d'Ambreuse ne laisserait pas sa fille sans héritage, et que s'il donnait tout son héritage à Madame d'Ambreuse, Madame d'Ambreuse ne donnerait rien à Cécile, ne sachant pas que Cécile est la fille naturelle de Monsieur d'Ambreuse. Et Madame d'Ambreuse comprend très bien ce danger. elle le dit plusieurs fois, elle sent que Cécile pourrait essayer de faire quelque chose. En fait, Cécile ne fait rien. C'est Monsieur d'Ambrose et Martinon qui, en quelque sorte, décident quelque chose. Alors, reprenons tout d'abord avec Martinon à la page 423. 423. En bas de la page, Madame Arnoux et Madame Louise, Mademoiselle Louise ont parlé ensemble, et puis Frédéric s'imaginait, hein, c'est en bas de la page, Frédéric s'imaginait que ces deux histoires pouvaient le compromettre. Et quand on fut dans le jardin, il en fit des reproches à Martinon. En effet, Martinon avait parlé un petit peu de ces histoires de Frédéric. Réponse de Martinon. L'amoureux de Mademoiselle Cécile lui éclata de rire au nez. Eh, pas du tout, ça te servira, va de l'avant. Que voulait-il dire? D'ailleurs, pourquoi cette bienveillance si contraire à ses habitudes? Là, en effet, Martinon et Frédéric ne sont plus vraiment des amis depuis longtemps. Mais, d'un seul coup, Martinon a de l'attention, de la sollicitude, même de l'aide pour Frédéric. On ne comprend pas pourquoi. Sans rien expliquer, il s'en alla vers le fond, où les dames étaient assises. Bon, premier détail. Page 425, la page suivante, en bas de la page, à peine dans le jardin, Madame d'Ambreuse, prenant Sisy, l'avait gourmandée de sa maladresse. À la vue de Martinon, elle le congédia. Donc, elle quitte Sisy pour aller discuter avec Martinon. Puis, voulut savoir de son futur neveu, donc, comme il y a cette idée d'épouser Cécile, la cause de ses plaisanteries sur le vicomte. Sisy. Il n'y en a pas. Et tout cela, comme pour la gloire de M. Moreau, dans quel but? Dans aucun. Frédéric est un charmant garçon, je l'aime beaucoup. Et moi aussi, qu'il vienne, allez le chercher. Hein, donc on voit comment Martinon favorise, disons, une possibilité de relation, de discussion tout d'abord, entre Madame d'Ambreuse et Frédéric. Après deux ou trois phrases banales, elle commença par déprécier légèrement ses convives. Là, elle parle avec Frédéric, hein, ce qui était le mettre au-dessus d'eux. Hein, donc on dit un peu du mal des autres, donc Frédéric se sent un petit peu au-dessus des autres. Il ne manqua pas de dénigrer un peu les autres femmes, manière habile de lui adresser des compliments. Donc on dit que les autres femmes sont critiquables, la robe, la coiffure, ça, mais elle, Madame d'Ambreuse, bien sûr, on ne le dit pas, mais ça se comprend. Mais elle le quittait de temps en temps, c'était soir de réception, des dames arrivaient, puis elle revenait à sa place, et la disposition toute fortuite des sièges leur permettait de n'être pas entendue. Donc il y a une sorte d'intimité, hein, qui se crée dans cette conversation qui se continue au milieu du monde. Page 442, on est au chapitre 3. En bas de la page, je crois. Oui, c'est ça. En bas de la page 442, le dernier paragraphe. Donc les soirées de Madame d'Ambreuse recommencèrent. Et ce que dit ou pense Frédéric, hein, celle-là au moins l'amusait. Elle savait les intrigues du monde, les mutations d'ambassadeurs, le personnel des couturières. Voilà ce qui intéresse Frédéric. Hein. Bizarre, hein, comme sujet. Et s'il lui échappait des lieux communs, c'était dans une formule tellement convenue que sa phrase pouvait passer pour une déférence ou pour une ironie. Il fallait la voir au milieu de 20 personnes qui causaient, n'en oubliant aucune, amenant les réponses qu'elle voulait, évitant les périlleuses. Des choses très simples racontées par elle semblaient des confidences. Le moindre de ses sourires faisait rêver. Son charme, enfin, comme l'exquise odeur qu'elle portait ordinairement, était complexe et indéfinissable. Frédéric, dans sa compagnie, éprouvait chaque fois le plaisir d'une découverte. Et cependant, il la retrouvait toujours avec sa même sérénité, pareille au miroitement des eaux limpides. Mais pourquoi ses manières envers sa nièce avaient-elles tant de froideur? Elle lui lançait même parfois de singuliers coups d'œil. Donc, grande valeur de Madame d'Ambreuse du point de vue mondain, hein, vraiment une femme mondaine comme il faut, et une petite remarque hein, que Flaubert glisse comme ça, il remarque, Frédéric remarque que Madame d'Ambreuse est très froide avec sa nièce. Mais on ne sait pas pourquoi, Frédéric non plus, nous on le sait, hein, on comprend ce qui se passe derrière grâce à ces petites informations de Flaubert. Alors ensuite, on peut passer à la page 445, donc deux pages plus loin. Cette fois, Frédéric commence à imaginer quelque chose véritablement au milieu de la page 445, le verbiage politique en gros. Il était fier de les connaître et intérieurement souhaitait la considération bourgeoise. Une maîtresse comme Madame d'Ambreuse le poserait. Il se mit à faire tout ce qu'il faut. Donc, c'est-à-dire faire la cour, venir souvent, se montrer prévenant, comme on dit, hein, c'est-à-dire très poli, devancer les envies de la dame et bien sûr créer des occasions de se voir autant que possible et des politesses et des petits cadeaux, etc. C'est le détail de tout ce paragraphe. À la page 446, vers le bas de la page, l'avant-dernier paragraphe, il n'éprouvait pas à ses côtés, c'est-à-dire aux côtés de Madame d'Ambreuse, ce ravissement de tout son être qui l'emportait vers Madame Arnoux, ni le désordre gai où l'avait mis d'abord Rosanette. Donc on voit, Madame d'Ambreuse arrive en quelque sorte troisième, et elle n'est ni ceci d'un côté hein, très très haut placé qu'était Madame Arnoux, ni cela de l'autre côté très amusant, très drôle qu'était Rosanette, mais une troisième possibilité, une troisième voie du côté beaucoup plus mondain, bien sûr, comme on l'a compris. Mais il la convoitait comme une chose anormale et difficile parce qu'elle était noble, parce qu'elle était riche, parce qu'elle était dévote, se figurant qu'elle avait des délicatesses de sentiment, rares comme ses dentelles, avec des amulettes sur la peau et des pudeurs dans la dépravation. Des pudeurs dans la dépravation, ça doit être évidemment l'activité amoureuse, hein, sexuelle, et des pudeurs, c'est-à-dire des façons de se cacher, mais qui sont plus excitantes encore que des façons de se dévoiler. Donc c'est l'imagination encore de Frédéric hein, qui n'est pas devenu pour l'instant l'amant de Madame d'Ambreuse. 445, 447, oui. Alors là, on avance un petit peu plus dans la compréhension de ce qui se passe en haut de la page 447. Elle recevait cela comme une personne accoutumée à ces choses, sans repousser formellement, ne céder rien. Et il n'arrivait pas plus à la séduire, que Martinon à se marier. Donc des deux côtés, hein, Martinon et Frédéric ont un petit peu de difficulté à avancer dans leur projet. Sans doute que Mademoiselle Cécile n'est peut-être pas franchement intéressé par Martinon, donc ça prend du temps, disons, pour séduire Cécile. Et de son côté, Frédéric aussi n'arrive pas très facilement à séduire Madame d'Ambreuse. Bon, pour les deux. Pour en finir, avec l'amoureux de sa nièce, elle l'accusa même de viser à l'argent et pria son mari, M. d'Ambreuse, donc, d'en faire l'épreuve. M. d'Ambreuse déclara donc au jeune homme que Cécile était l'orpheline de parents pauvres, n'avait aucune espérance ni dot. Martinon, ne croyant pas que cela fût vrai, ou trop avancé pour se dédire, ou par un de ces entêtements d'idiots qui sont des actes de génie, répondit que son patrimoine, 15 000 livres de rente, leur suffirait. Ce désintéressement imprévu toucha le banquier. Il lui promit un cautionnement de receveur en s'engageant à obtenir la place. Et au mois de mai 1850, Martinon épousa Mademoiselle Cécile. Il n'y eut pas de bal, les jeunes gens partirent le soir même pour l'Italie. Frédéric, le lendemain, vint faire une visite à Madame d'Ambreuse. Elle lui parut plus pâle que d'habitude. Plus pâle que d'habitude, c'est-à-dire, elle s'est trompée. Elle comprend qu'elle a fait une erreur grave et que ce mariage Martinon-Cécile a été en quelque sorte provoqué par la proposition de Madame d'Ambreuse de mettre Martinon à l'épreuve. En effet, si on disait à Martinon que Cécile n'avait pas d'argent, logiquement, Madame d'Ambreuse a pensé que Martinon allait se détacher. Il n'aurait pas d'espoir d'héritage, hein, encore une fois, de dot d'héritage de cette façon. Et c'est tout à fait le contraire qui se produit, et donc il faut se méfier hein, de toutes ces genres d'actions que l'on fait comme ça parfois. C'est le contraire qui se produit, c'est-à-dire que Martinon, il sait, il ne sait pas, hein, Flaubert reste ambigu, hein, il a le génie d'un idiot, paradoxe, hein, entre les deux, et en tout cas il dit, l'argent que j'ai moi, Martinon, ça suffira. Le banquier ne pouvait pas imaginer un meilleur gendre pour sa fille. Et évidemment, tout l'héritage ira à lui. Alors, grâce à cette situation où Madame d'Ambreuse est tout à fait choquée d'avoir finalement provoqué ce qu'elle redoutait, hein, ce qu'elle espérait éviter, elle est dans une situation de faiblesse, dans une position de faiblesse, et c'est à ce moment-là que Frédéric va en profiter pour devenir son amant, à la page 449. Il a donc dit des choses très gentilles, très intimes, et puis Madame d'Ambreuse est devenue un peu sensible à cette parole que jusqu'à maintenant elle écoutait un peu d'une oreille distraite, et elle lui propose de revenir dîner, donc en haut de la page 449, puis comme il partait, elle le rappela d'un signe et lui dit tout bas, « Revenez dîner, nous serons seuls ». Alors, réaction de Frédéric. Il semblait à Frédéric, en descendant l'escalier, qu'il était devenu un autre homme, que la température embaumante des serres chaudes l'entourait, qu'il entrait définitivement, ça c'est extraordinaire, la bêtise de Frédéric, qu'il entrait définitivement dans le monde supérieur des adultères patriciens et des hautes intrigues. Le monde supérieur, en fait, l'impression d'entrer dans une société secrète hein, qui dirige le pays avec des patriciens. Les patriciens, ce sont ceux qui dirigent la patrie, les plus grands aristocrates du pays. Donc, le monde supérieur des adultères patriciens, hein, donc des secrets d'amour entre les dirigeants principaux de la nation, et des hautes intrigues. Hautes intrigues, ce sont ceux qui discutent, disons, des affaires de l'État de façon secrète, même quand on est en République. Pour y tenir la première place, il suffisait d'une femme comme celle-là. Donc il rêve, là encore, d'arriver à une position de pouvoir grâce à l'aide d'une femme. C'est encore une fois une certaine façon d'hériter d'une situation, hein, toujours ce thème de l'héritage injuste. Alors, dans cette situation, il va retrouver Des Lauriers. Alors, on introduit Des Lauriers à ce moment-là, on réintroduit Des Lauriers, disons, qui revient de sa situation de prisonnier, hein, puisqu'il a participé à la Révolution, il a été arrêté, au moment où il participait à des actions interdites de trafic d'armes. Donc Frédéric arrive à devenir l'amant de Madame d'Ambreuse, mais il n'en est pas amoureux. Nous en aurons la confirmation à la page 457, c'est-à-dire le tout début du chapitre 4, qui est le chapitre des grandes déceptions. Les grandes déceptions vont s'accumuler l'une après l'autre dans ce chapitre 4. Donc page 457. Au milieu de la page, oui. Des Lauriers partit et Frédéric se considéra comme un homme très fort. Il éprouvait d'ailleurs un assouvissement, une satisfaction profonde. Sa joie de posséder une femme riche n'était gâtée par aucun contraste. Le sentiment s'harmonisait avec le milieu. Sa vie maintenant avait des douceurs partout. La plus exquise peut-être était de contempler Madame d'Ambreuse entre plusieurs personnes dans son salon. La convenance de ses manières le faisait rêver à d'autres attitudes. Pendant qu'elle causait d'un ton froid, il se rappelait ses mots d'amour balbutiés. Tous les respects pour sa vertu le délectaient comme un hommage retournant vers lui. Et il avait parfois des envies de s'écrier « Mais je la connais mieux que vous, elle est à moi !» Leur liaison ne tarda pas à être une chose convenue, acceptée. Madame d'Ambreuse, durant tout l'hiver, traîna Frédéric dans le monde. Alors je crois que nous arrivons ici à un point maximum, un autre point maximum, un autre paroxysme du roman, qui n'est pas un paroxysme amoureux, comme avec Madame Arnoux ou avec Rosanette, mais qui est un paroxysme d'autosatisfaction et de vanité. Autosatisfaction et vanité. Nous arrivons à ce moment où Frédéric est tout à fait gonflé de sa propre personne, gonflé au sens où il est donc vaniteux, fier, il se félicite en permanence de tout ce qu'il a réussi à faire, de cette situation à laquelle il est arrivé. C'est donc ce qu'on appelle l'autosatisfaction. D'habitude, on est satisfait pour quelqu'un, on se satisfait pour quelqu'un se satisfait pour nous. Enfin, il y a un regard comme ça, et lui-même se voit, et puis il s'admire, il est très beau, merveilleux, extraordinaire, j'ai tout à fait réussi. Et cette vanité se combine avec ce qu'on a appelé tout à l'heure la perversité, c'est-à-dire qu'il observe Madame d'Ambreuse, et pendant qu'il la regarde, il pense à d'autres choses. Il est en quelque sorte celui qui voit ce qu'il y a devant et ce qu'il y a derrière et en dessous en même temps. Donc il est tout à fait imbu de sa personne. Autosatisfaction et vanité ensemble. Également le nommer imbu de soi. Alors, être imbu de soi ou bien autosatisfait, c'est une situation qui pourrait être bonne si les conditions étaient réellement très favorables, s'il avait réellement beaucoup d'argent, une réelle position politique ou d'affaires ou quoi que ce soit. Mais en réalité, cette autosatisfaction repose totalement sur du vent. Pour l'instant, il n'en est qu'à la promesse de se marier avec Madame d'Ambreuse, et Madame d'Ambreuse n'en est qu'à attendre l'héritage de Monsieur d'Ambreuse, qui n'est pas encore mort. Lorsque d'Ambreuse va mourir, Madame d'Ambreuse va rester près de lui, non pas pour s'occuper bien de lui, mais pour éviter qu'il puisse communiquer avec sa fille. Et donc tout le monde dit, oh, regardez Madame d'Ambreuse, comme elle s'occupe bien de son mari. Ah oui, évidemment, elle veut bien surveiller la situation, que rien ne lui échappe dans cet argent. Et cependant, elle ne sait pas l'essentiel, c'est-à-dire que le testament qu'elle connaissait, où Monsieur d'Ambreuse donnait tout à son épouse, eh bien ce testament avait déjà été modifié, invalidé par un autre, où il donnait tout à sa fille et il laissait une certaine fortune à Madame d'Ambreuse, mais qui n'est rien par rapport aux millions, au pluriel, hein, qu'il pouvait espérer. Donc, Madame d'Ambreuse, comme Frédéric, se comporte d'une façon un peu trop, en avance sur les événements. Hein, ils espèrent et ils vivent en quelque sorte à crédit sur une fortune qu'ils attendent et qui malheureusement ne viendra pas. Alors, après le décès d'Ambreuse, donc cet attachement sincère évidemment cache cette volonté de garder, de capter l'héritage. Voyons cela à la page 459. C'était quoi? Donc, Monsieur d'Ambreuse est malade, il a une attaque, et puis Madame d'Ambreuse s'en occupe bien. Bon, il a peur de mourir. En haut de la page 459, elle répond: pas sans moi. Bon, c'est gentil. Au lieu de répondre, il étala sur elle et sur son amant, parce qu'il sait que Frédéric est son amant, il étala sur elle et sur son amant un singulier sourire, où il y avait à la fois de la résignation, de l'indulgence, de l'ironie, et même comme une pointe, un sous-entendu presque gai. Donc vous imaginez, hein, Monsieur d'Ambreuse, sur son lit, il est malade, il est presque mort, et puis il les regarde comme ça tous les deux. Vous allez voir. Hein? Bon, alors, on peut deviner quand même, hein, même si ce n'est pas encore dit, je crois que le lecteur normal, même pas le bon lecteur, hein, le lecteur normal le sait déjà, quoi. Ils vont se faire avoir. Ils vont se faire avoir. Au milieu de la page 459, je voulais relever un petit détail à la fin du paragraphe qui est au milieu de la page. Donc tout le monde admire, hein, le comportement de Madame d'Ambreuse. Les personnes se faisaient inscrire, parlaient d'elle avec admiration, et les passants étaient saisis de respect devant la quantité de paille qu'il y avait dans la rue sous les fenêtres. Pourquoi on met de la paille comme ça dans la rue sous les fenêtres? C'est parce que quelqu'un est malade. C'est pour le silence, parce que les voitures qui passent sur le pavé, ça fait énormément de bruit. Et lorsque quelqu'un est malade, on souhaite qu'il ait plus de tranquillité. Et donc, on faisait mettre de la paille dans la rue pour amortir le bruit des voitures, des carrosses, des chariots qui passaient. Donc, ce détail de la paille, hein, est tout à fait réaliste et très intéressant. Donc, Madame d'Ambreuse n'oublie rien, hein, même pas la paille. Pour la tranquillité. Elle fait 100% de ce qu'il faut faire pour... c'est son boulot, quoi, hein, pour avoir son héritage. 461, deux pages après. Alors, elle parlait à Frédéric, justement, de cet héritage qu'on pouvait attendre. Alors, elle expliqua ses affaires. C'est en bas de la page 460, hein, les trois dernières lignes. Il s'était marié sous le régime de la séparation. Son patrimoine était de 300 000 francs. Monsieur d'Ambreuse, par leur contrat, lui avait assuré, en cas de survivance, 15 000 livres de rente avec la propriété de l'hôtel. Mais, peu de temps après, il avait fait faire un testament où il lui donnait toute sa fortune. Et elle l'évaluait, autant qu'il était possible de le savoir maintenant, à plus de 3 millions. Frédéric ouvrit de grands yeux. Ça en valait la peine, n'est-ce pas? J'y ai contribué, du reste. C'était mon bien que je défendais. Cécile m'aurait dépouillé. Eh oui, elle parle au conditionnel passé. Elle croit qu'elle a déjà gagné. Cécile m'aurait dépouillé injustement. Pourquoi n'est-elle pas venue voir son père? Dit Frédéric. À cette question, Madame Calambreuse le considéra, puis d'un ton sec. Je n'en sais rien. Faute de cœur, sans doute. Eh oui, mais si vous avez bien lu les pages précédentes, Monsieur d'Ambreuse a écrit des lettres à sa fille. Et Madame d'Ambreuse, vous pensez qu'elle les a postées? Je ne crois pas. Madame d'Ambreuse n'a pas posté les lettres. Pour éviter que Cécile et Martinon soient informés. Ils sont en voyage de noces, là-bas, en Italie. Donc, voilà, la duplicité de Madame. 468-469, donc là, on arrive au dévoilement. En bas de la page 468. « Eh bien, où êtes-vous donc? Y a-t-il ? » Elle se leva d'un bond. « Ce qu'il y a, je suis ruiné. » Ruiné, entends-tu? Monsieur Adolphe Langlois, le notaire, l'avait fait venir en son étude et lui avait communiqué un testament écrit par son mari avant leur mariage. Il léguait tout à Cécile et l'autre testament était perdu. Frédéric devint très pâle. Sans doute elle avait mal cherché. Mais regarde donc, dit Madame d'Ambreuse en lui montrant l'appartement. Les deux coffres-forts bâillaient, défoncés à coups de merlin. Et elle avait retourné le pupitre, fouillé les placards, secoué les paillassons, quand tout à coup, poussant un cri aigu, elle se précipita dans un angle où elle venait d'apercevoir une petite boîte à serrure de cuivre. Elle n'ouvrit rien. Ah, le misérable! Moi qui l'ai soigné avec tant de dévouement. Donc, la situation, c'est que il y avait un testament d'avant le mariage avec cette personne qui est devenue Madame d'Ambreuse, dans lequel il léguait tout à sa fille. Si Madame d'Ambreuse trouvait le testament écrit après le mariage, eh bien ce testament écrit après, postérieur, était valable. Le testament qui est écrit après rend nul le testament qui est écrit avant. Donc, lorsqu'on a deux testaments, il faut comparer les dates. Et c'est le plus récent qui est accepté. Mais on ne le retrouve pas. Alors, on peut imaginer que M. d'Ambreuse l'a fait disparaître, bien sûr, en sachant qu'il y en avait un autre d'avant qui était valable. Bon, voilà cette situation. Alors, cependant, Frédéric dit qu'il peut toujours rester avec Mme d'Ambreuse et se marier, parce qu'elle est quand même pas pauvre. Elle est toujours une femme du monde. Elle a toujours son entrée, ses situations. Au milieu de la page 469, un tout petit peu après, elle dit « C'est la misère, puisque je ne peux pas t'offrir une grande fortune. » Elle n'avait plus que 30 000 livres de rente, sans compter l'hôtel, qui en valait de 18 à 20, peut-être. Bien que ce fût de l'opulence pour Frédéric, il n'en ressentait pas moins une déception. Adieu ses rêves et toute la grande vie qu'il aurait menée. L'honneur le forçait à épouser Madame d'Ambreuse. Il réfléchit une minute, puis, d'un air tendre, « J'aurai toujours ta personne !» Elle se jeta dans ses bras, et il la serra contre sa poitrine, avec un attendrissement, etc., etc. Bon, donc il décide tout de même de rester ensemble. Oui, mais, lorsque Madame Arnoux et Monsieur Arnoux s'enfuient, Frédéric garde cette sorte de fidélité à Madame, d'amitié à Monsieur, et il veut payer pour eux ce qu'ils doivent, 12 000 francs. Encore une histoire d'argent. On avait vu les 15 000 francs au début, avec des lauriers qui voulaient un journal, etc. Maintenant, c'est 12 000 francs qu'il faut rembourser le jour même, sinon tout le bien des Arnoux est vendu. Frédéric demande cet argent à Madame d'Ambreuse. Bien sûr, il ne peut pas dire que c'est pour Arnoux, parce que Arnoux, on pense tout de suite, c'est pour Madame. Donc il dit que c'est pour Dussardier. Alors c'est un mensonge. Bon, Madame Arnoux, Madame d'Ambreuse, donne l'argent. Et un peu plus tard, presque par hasard, en rencontrant Madame Regimbard, Madame d'Ambreuse apprendra que cet argent était pour sauver les Arnoux. Donc, pas de confiance. La confiance pour Frédéric est perdue. Cet argent, c'était pour Madame Arnoux, donc on ne peut pas compter sur lui, encore une fois. Alors, c'est une grande déception pour Madame d'Ambreuse, et elle ne peut pas lui dire directement, donc elle ne lui dit de garder l'argent pour autre chose. S'il en a besoin un autre jour, bon, c'est pas sans importance. Mais à la vente des objets des Arnoux, elle veut absolument acheter cette petite boîte en argent qui appartenait à Madame. Et Frédéric lui demande de ne pas le faire. Pour lui, c'est quelque chose d'insupportable. Cette boîte, c'était à Madame Arnoux. Il n'est pas possible que Madame d'Ambreuse la rachète. Où est-ce que ça se trouve, ça ? Est-ce que c'est page 504 ? Oui, c'est ça. Page 504, c'est la vente aux enchères de différentes choses. Et puis on arrive à cette petite boîte en argent. Frédéric lui demande de ne pas l'acheter. En haut de la page 504, « Ce que vous faites n'est pas bien », murmura Frédéric. Elle riait. « Mais, cher ami, c'est la première grâce que je vous demande. »« Mais vous ne serez pas un mari aimable, savez-vous ?» Une phrase d'ailleurs plus sérieuse qu'elle n'en a l'air. Quelqu'un venait de lancer une surenchère. Donc ça, c'est la vente, hein, 900, etc., etc. Et au milieu de la page, Madame d'Ambreuse, qui était arrivée sur le seuil, s'arrêta et d'une voix haute, « 1000 francs !» Il y eut un frisson dans le public, un silence. 1000 francs, messieurs, 1000 francs. Personne ne dit rien. Bien vu. 1000 francs, adjugé. Le marteau d'ivoire s'abattit. Elle fit passer sa carte, on lui envoya le coffret. Elle le plongea dans son manchon. Manchon, c'est là où on met les deux mains, hein, pour avoir chaud aux mains. Donc ça veut dire que c'est quand même une boîte assez petite, hein, de cette taille-là peut-être, à peu près. Frédéric sentit un grand froid lui traverser le cœur. Madame d'Ambreuse n'avait pas quitté son bras et elle n'osa le regarder en face jusque dans la rue où l'attendait sa voiture. Elle s'y jeta comme un voleur qui s'échappe et quand elle fut assise, se retourna vers Frédéric. Il avait son chapeau à la main. « Vous ne montez pas ?»« Non, madame. » Et la saluant froidement, il ferma la portière puis fit signe au cocher de partir. Et c'est la fin. On ne revoit plus Madame d'Ambreuse. Hein, donc, Frédéric est allé au plus loin qu'il pouvait dans l'hypocrisie, la perversité, la tentative de faire partie de ce monde, d'y entrer et de faire comme les autres, mais il n'y arrive pas. Hein, au nom même de Madame Arnoux, à la fidélité de son sentiment, il renonce et il laisse tomber. Bon, il a tort, il a raison, chacun pense ce qu'il veut. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de conclusion, hein, chez Flaubert. C'est un comportement et qui a, je crois, beaucoup de dignité, hein, dans un sens. Bon, il est allé d'un côté et puis il s'est arrêté. On pourrait parler également de Louise, mais sur Louise, on a déjà presque tout dit, puisque on a vu qu'elle était petite enfant. Du côté donc campagnard, du côté George Sand, hein, du roman de Flaubert. Elle grandit, elle est amoureuse de Frédéric. Monsieur Rock, son père, promet qu'il y aura un héritage. Donc Frédéric s'en désintéresse parce que les d'Ambreuse, c'est beaucoup plus intéressant. Et lorsqu'il a perdu Madame d'Ambreuse, on est en 1851, là aussi, Frédéric passe à travers les événements historiques sans rien voir de ce qui se passe et il s'en va à Nogent où il arrive, par hasard, au moment du mariage de Louise avec Deslauriers. Parce que, bien sûr, il ne s'est pas occupé de Deslauriers, il a perdu sa candidature électorale, il n'a pas vu que Deslauriers prenait sa place, délibérément cette foi, on en avait parlé l'autre jour comme possibilité pour des lauriers, mais cette fois des lauriers a réussi, ou plutôt des lauriers a abandonné Frédéric. Il a décidé que désespérément Frédéric ne réussirait rien. Donc ce n'est pas la peine de rester derrière lui pour l'aider, pour profiter ensuite de la réussite de Frédéric. Donc des lauriers laisse tomber et il tente lui-même sa réussite et épouse Louise. Donc Frédéric arrive trop tard. Frédéric, donc à la fin de ce chapitre 5, revient à Paris. On va finir là-dessus, puisque, à mon avis, c'est la vraie fin du roman. Les deux chapitres suivants ne sont que un petit peu comme les conclusions dans certains romans de Balzac, ou les moralités à la fin des fables de La Fontaine. C'est-à-dire, on sort de l'histoire et puis on pose un regard général sur tout ce qui s'est passé. Alors c'est la visite de Madame Arnoux avec cette considération de tout ce passé. Bon, nous aurons été heureux tout de même, etc. Et puis évidemment avec des lauriers, une sorte de double fermeture de parenthèse avec Madame Arnoux, avec des lauriers. Et finalement, c'est avec des lauriers qu'il reste. En ouvrant cette fois peut-être la possibilité de Bouvard et Pécuchet, hein, qui seraient Frédéric et Deslauriers dans une autre vie, hein, ou d'une autre façon. Alors ce retour à Paris qui finit vraiment l'action du roman, c'est le 2 décembre 1851, le jour du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, et qui va devenir d'abord président de la République en 1848, et puis qui va faire un coup d'État pour transformer la République en second empire, hein, c'est-à-dire rétablir l'empire. Alors, comment Napoléon fait cela ? Eh bien, par un certain nombre de décrets, un décret qui dissout la Chambre des députés, et puis d'autres décrets qui lui donnent beaucoup plus de pouvoir, ce qu'on peut appeler les pleins pouvoirs pour décider de l'action de l'État. Alors, page 506, donc c'est Frédéric qui arrive pour essayer de récupérer Louise, mais il arrive trop tard, et donc en bas de la page 506, la cloche de Saint-Laurent tintait, etc. Bon, paragraphe suivant. Il se crut halluciné, mais non, c'était bien elle, Louise, couverte d'un voile blanc qui tombait de ses cheveux, rouge à ses talons. Et c'était bien lui, Deslauriers, portant un habit bleu brodé d'argent, un costume de préfet. Pourquoi donc ? Frédéric se cacha dans l'angle d'une maison pour laisser passer le cortège. Honteux, vaincu, écrasé, il retourna vers le chemin de fer et s'en revint à Paris. Donc c'est même pas la peine de les rencontrer. Ah, ça plus tard éventuellement. Son cocher de fiacre assura que les barricades étaient dressées depuis le château d'eau jusqu'au gymnase. Et pris par le faubourg Saint-Martin, au coin de la rue de Provence, faisait une pied à terre pour gagner les boulevards. Donc c'est un peu comme le retour de Fontainebleau. Hein, il y a des difficultés pour entrer dans Paris. Et il se retrouve à pied, comme en février 48, comme en juin 48, là encore, en décembre 51. Il marche à pied dans Paris, où il ne comprend absolument rien. Et donc il arrive devant, par hasard, hein, devant une scène où il voit des agents qui font évacuer des manifestants. Et ces dernières lignes, un des agents qui marchait en tête, le tricorne sur les yeux, le menaça de son épée. L'autre alors, s'avançant d'un pas, se mit à crier « Vive la République !» Il tomba sur le dos, les bras en croix. Hein, jusque-là, on ne sait pas du tout qui c'est juste un événement. Un hurlement d'horreur s'éleva de la foule, l'agent fit un cercle autour de lui avec son regard, et Frédéric Béant reconnut Sénécal. Donc c'est Sénécal qui tue Dussardier, ou en quelque sorte les deux plus républicains du roman s'entretuent. Celui qui est républicain, disons de type ouvrier, libertaire, est tué par celui qui est républicain de type autoritaire, c'est-à-dire la République transformée en empire. L'action de Sénécal contre Dussardier est une sorte de mise en abîme, hein, de résumé de l'action politique en général, qu'un type de républicain assassine un autre type de républicain pour transformer la situation de l'État, qui n'est pas viable avec les deux types de républicains ensemble. Hein, ils n'arrivent pas à s'entendre. C'était la politique de 1850-1851. Je ne suis pas personnellement d'accord avec la décision de Napoléon, de Bonaparte, pardon, mais on n'a pas le choix. Ça s'est passé comme ça. Donc maintenant, on regarde ça en arrière. Voilà donc pour finir avec ce roman, non pas conclure, puisque on aurait beaucoup de mal à donner une conclusion, mais finir. J'espère que vous avez pris du plaisir à lire ce roman. Pour moi, j'hésitais depuis très très longtemps à savoir si je préférais Madame Bovary ou l'éducation sentimentale. Maintenant, je suis tout à fait sûr, grâce à vous, que je remercie donc de m'avoir poussé à faire ce travail, en quelque sorte, hein, en choisissant ce cours. Je sais que je préfère l'éducation sentimentale. Merci. On peut pas continuer parce qu'il est midi.